Les deux orphelines, deuxième partie, chapitre 3. En se mettant en ménage, Frochard n'avait pas rompu avec ses anciennes habitudes d'instabilité. Pendant longtemps encore, ses époux, si bien assortis, menèrent la vie vagabonde, logeant à la nuit, changeant le plus souvent possible de quartier, ce qui, du reste, ne déplaisait pas le moins du monde à l'ancienne servante d'auberge qui trouvait ainsi l'occasion de visiter tout Paris. Frochard ne séjournait dans un endroit que tout juste le temps d'y commettre quelques vols. Et, la bourse remplie de nouveau, les oiseaux de proie prenaient leur vol vers un autre quartier. Le bel Anatole avait, entre-temps, tenu parole à sa fiancée. Il l'avait épousée aussitôt que possible, bien que l'ancienne servante d'auberge n'eût pas insisté pour qu'il régularisât sa situation. Elle s'était parfaitement accommodée de la vie à deux, pratiquée librement et d'un commun accord, sans la consécration du mariage. Lorsque Frochard lui fait part de son intention de marcher à l'hôtel, il se contenta de lui dire « Ce n'est pas que ce soit bien nécessaire. On peut s'aimer sans cela. Seulement, ça vaut toujours un peu mieux pour les enfants, s'il en vient. » Cette précision devait se justifier bientôt. Au bout de la première année de son mariage, la femme du bandit mettait au monde un garçon vigoureusement constitué et qui promettait de devenir un robuste gaillard. À la vue de son rejeton, Frochard, tout Frochard qu'il était, sentit se développer en lui le sentiment de la paternité. Et transporté de joie, il s'écria « Femme, c'est un véritable bonheur pour nous que cet enfant. Il me donnera du courage à la besogne, et c'est moi qui l'élèverai à ma façon. » Puis, plaquant deux gros baisers sur les joues rebondies du nouveau-né, il ajouta « Celui-là perpétuera notre race. Celui-là sera un vrai. Je m'en charge. » Replaçant alors l'enfant auprès de la couchée, il se prit à l'admirer. « Comment le nommera-t-on ? » demanda la mère, toute heureuse de ce qu'elle venait d'entendre. Frochard réfléchit un instant. Puis, se frappant le front. « Parbleu, c'est tout trouvé ! Nous l'appellerons Jacques !» Et se campant fièrement sur la hanche, il continua d'un ton solennel. « C'était le prénom de mon grand-père. Un rude homme, Madame Frochard. Un vrai tempérament de fer. Il n'a pas mis moins de 20 bonnes minutes à mourir, lorsque les infâmes suppôts de la justice l'ont pendu à Montfaucon. » La couchée ne put retenir un léger tressaillement. Ce que voyant, Frochard lui dit en riant. « Ah ça, ne va pas faire tourner le lait du petit, maintenant. Il faut me nourrir ce gaillard-là, de telle sorte qu'il devienne aussi solide que les anciens de la famille. » La jeune femme serra son fils contre son sein dans un mouvement d'amour maternel. Elle ne pouvait se rassasier d'embrasser et d'admirer ce nouveau-né auquel on voulait donner, comme un héritage qui lui revenait de droit, le prénom de l'homme qui avait glorieusement agonisé pendant 20 minutes au gibet de Montfaucon. L'enfant sur lequel ses parents fondaient tant d'espérance fut, à partir de sa naissance, l'objet de tendresse infinie, d'une sollicitude de tous les instants et de soins continuels. Cette affection, grandissant chaque jour, faisait dire au père « Je gage qu'au besoin tu mettrais la main à la pâte et me seconderais dans ma besogne pour ce chérubin-là. » Ce mot de chérubin avait sonné agréablement à l'oreille maternelle et à partir de ce moment, Euphémie n'appela plus Jacques que son chérubin. Le soir, lorsque Frochard rentrait au logis, elle courait lui présenter l'enfant à embrasser. Et c'était le tour du père de prendre le chérubin sur ses genoux et de le faire sauter. Lorsqu'il arrivait parfois que le bandit, occupé à travailler, comme il avait l'habitude de dire en parlant des sinistres expéditions auxquelles il se livrait, ne rentrait pas de la nuit, la mère, prise d'inquiétude, se disait « Et s'il allait ne plus revenir ? Si on l'arrêtait ?» C'était une tendre épouse et une très tendre mère que la Frochard. Aussi, disait-elle parfois à son mari, « Quand ouvras-tu donc quelques grands coups à faire qui nous enrichissent une bonne fois, afin que tu n'aies plus à t'exposer comme tu le fais ? Il faut penser que nous avons un fils. » Mais lorsqu'on lui parlait de ne plus s'exposer, Frochard frappait vigoureusement du poing sur la table en disant, « Est-ce que j'aurais épousé une femmelette par hasard ? Si c'est de ce lait-là que tu veux donner au petit, je vais tout de suite le changer de nourrice, Mame Frochard. » On menait à cette époque bonne et joyeuse vie dans la famille. Depuis quelque temps, les affaires de Frochard marchaient à merveille et la bourse était toujours bien garnie. « Je n'avais jamais eu la main aussi heureuse, » s'exclamait le bandit après chaque nouveau succès. « C'est à croire véritablement que ce petit bonhomme de Jacques m'a porté bonheur en venant au monde. Eh bien, s'il t'en arrivait un autre. Un autre quoi? Un second fils? Le bonheur doublerait peut-être bien mon homme. Frochard regardait son interlocutrice et ses yeux interrogeaient. Puis, avec un gros rire. Vraiment? Fit-il, répondant au sourire de sa femme. En ce cas, ma belle, abondance de biens ne nuit pas. La jeune femme disait la vérité. Jacques avait à peine accompli ses 2 ans lorsqu'il lui naquit un frère. Ce second enfant, un garçon, était si petit, si pâlot et si frêle qu'il paraissait bizarre que 2 êtres aussi vigoureusement constitués que l'étaient Frochard et sa femme eussent, en pleine santé, engendré un enfant de complexion si débile. Le nouveau-né semblait n'avoir que le souffle, et son père, qui ne se pressait guère de le faire baptiser, grommelait entre ses dents. Nous ne l'élèverons certes pas. Quoi bon alors lui donner un bain d'eau bénite? Ça l'enrhumerait, voilà tout. Cette quasi-répulsion que ressentait le père pour ce second enfant provoqua chez la Frochard une répulsion égale. Elle s'habitua facilement à reporter tout son amour sur Jacques, qui, disait-elle, avait de la santé et de la vie pour 2. On se pressait trop, toutefois, de condamner ce second enfant. Il n'avait rien, il est vrai, de la turbulence de son frère aîné, et on pouvait, sans provoquer ses cris, le laisser 2 heures entières dans son berceau. « Il est d'une bonne patte, » disait sa mère en l'allaitant. « Il ne demanderait jamais à boire si on ne lui apportait pas la bouteille. » Mais Frochard n'était pas sans s'apercevoir que le petit gringalet, ainsi qu'il l'appelait, n'était pas dépourvu de vitalité. « Ça vous grouille dans la main comme un ver, » faisait-il. « C'est petit, mais ça vous a tout de même du sang et de la vie. Il s'appellera Pierre Frochard, comme mon père. » Il sera peut-être bien fin et rusé comme lui, car c'était un malin, et qui a trouvé le moyen d'échapper à la potence, et avec un geste énergique, le seul de tous les Frochards. « Il a donc fini de sa belle mort ?» demanda la jeune femme étonnée. « Il est défunt sur les galères du roi. » Chaque fois qu'il trouvait l'occasion de parler de ses ascendants mâles, le bandit faisait avec orgueil l'apologie de tous ces misérables, énumérant leurs fins courageuses. Il s'exaltait alors au point d'enthousiasmer sa femme et de lui inspirer la plus profonde horreur pour les gens de justice et les soldats du guet. À peine âgé de 6 ans, Jacques était déjà un infernal garnement, vagabond par instinct, malfaisant, brutal, colère et qui rendait la vie dure à son frère. Il avait su s'imposer comme un maître dans la famille. Père et mère, aveuglés par leur affection, se pliaient à toutes ses volontés. Profitant de l'impunité dont il était certain, il maltraitait son frère dès qu'il se trouvait seul avec lui. Et le pauvre cadet avait pris l'habitude de recevoir les coups sans pleurer. Car, la première fois qu'il avait voulu se plaindre à sa mère, celle-ci lui avait brutalement répondu. « Eh bien, défends-toi si tu peux. C'est pas ma faute si tu es faible et poltron comme une poule mouillée. » Le pauvre enfant avait dévoré ses sanglots et continué à tout supporter du robuste Jacques. Comment se fit-il que cette famille d'aventuriers pût vivre pendant des années à Paris sans donner l'éveil à la police? Par quel hasard le malfaiteur qui était toujours en campagne contre la société avait-il réussi à se sortir d'affaires en toutes circonstances? Le bandit se fiait pour cela à son étoile. L'intelligence de Frochard égalait sa hardiesse. Grâce à son imagination singulièrement fertile en combinaison, il avait réussi à se mettre à l'abri des dangers qui pouvaient le menacer. Il continuait à jouer de bonne heure, comme il disait. De là, une succession de forfaits de toutes sortes. On ne parlait depuis quelque temps que de vols audacieux, de crimes monstrueux, dont la police cherchait en vain à découvrir les auteurs. On ne pouvait supposer, en effet, qu'un seul homme eût pu accomplir une aussi longue série de criminels exploits. Et comme on était toujours à la recherche de l'insaisissable mandrin, bon nombre de méfaits furent mis à l'actif du mystérieux malfaiteur, lesquels revenaient en réalité de droit à Frochard. Celui-ci, dans sa vanité, éprouvait une certaine jalousie à voir mettre sur le compte d'un autre les entreprises hardies dont il était l'auteur. Il eût voulu pouvoir revendiquer hautement ce qui lui revenait de part de gloire anonyme dans l'épopée de ce grand scélérat qui mettait sur les dents les plus fins limiers et tout le petit corps de troupes placé sous les ordres du lieutenant de police. Quelque extraordinaire que cela puisse paraître, cet homme en était arrivé, dans son admiration pour le criminel auquel il faisait concurrence, à commettre les plus grandes imprudences. C'est ainsi qu'ayant appris que Mandrin avait poussé l'audace jusqu'à inscrire son nom sur les murs des appartements qu'il dévalisait, comme s'il eût voulu signer ses crimes, Frochard eut la fantaisie de l'imiter. Mais il avait réfléchi qu'il lui faudrait alors rompre décidément en visière avec la police, tenir la campagne continuellement et, dans toutes ses expéditions, traîner sa famille à sa suite. Il dut se résigner à n'être, comme par le passé, qu'un malfaiteur mystérieux, mais dont la hardiesse semblait s'accroître à chaque affaire nouvelle. Du reste, les exploits des voleurs et des assassins devenaient chaque jour plus nombreux, en dépit des efforts tentés par le lieutenant de police pour réprimer le banditisme qui menaçait de prendre des proportions formidables. Dans son épouvante, la population parisienne, toujours un peu crédule, accordait foi aux histoires les plus invraisemblables. C'est ainsi qu'on se disait tout bas que la police, insuffisamment surveillée par ses chefs, était de connivence avec les scélérats et, au besoin, favorisait leur évasion et leur fuite. Que ce fût ou non la vérité, la gente Cagousse et Escarpe poursuivaient impunément le cours de ses méfaits, à tel point qu'il était devenu impossible de se hasarder dans les rues le soir sans une escorte. On organisait des espèces de caravanes pour traverser les ponts ou pour longer les quais dès la tombée de la nuit. Frochard, bien que son nom ne figurât pas sur la liste des bandits célèbres, faisait largement sa part de la besogne qu'on attribuait à d'autres. La police était bien parvenue à connaître la plupart des hautes personnalités du crime, mais elle ne parvenait que rarement à les capturer. Aussi, la nouvelle que le redoutable mandrin était enfin tombé aux mains des agents lancés à sa poursuite causa-t-elle une véritable émotion dans le public. Si grande était la satisfaction générale que l'on s'abordait dans les rues pour se communiquer les renseignements que chacun avait pu obtenir. On voulait savoir comment la police était parvenue à se rendre maîtresse du fameux bandit que l'on commençait à considérer comme une sorte de sorcier possédant le don d'ubiquité. On affirmait que le lieutenant de police avait ordonné que l'on conduisît le prisonnier à pied à la prison afin que les Parisiens fussent bien convaincus qu'ils n'avaient désormais plus rien à redouter de ce grand criminel. La Frochard, elle aussi, s'était mêlée à la foule qui allait se masser aux abords du Grand Châtelet pour y attendre l'arrivée du prisonnier. Elle s'était, malgré de continuelles bousculades, maintenue à proximité de la porte et avait pu distinguer les traits de cet homme dont la France entière s'était occupée. Et tout émotionnée des invectives et des malédictions dont la foule accablait le prisonnier, la Frochard s'était hâtée de rentrer chez elle pour faire part à son mari de la grande nouvelle du jour. « C'était un rude lutteur, » dit le bandit. « Malheureusement pour lui, il avait des complices. Qui sait s'il n'a pas été vendu par quelques-uns de sa bande ?» Et s'animant. « Pas d'associé, » dit-il. « Un complice est souvent une mouche, trop lâche pour supporter les tortures de la question et qui bourdonne des révélations aux oreilles des juges et du lieutenant criminel. Voilà pourquoi je travaille seul, moi. Je suis à la fois le chef qui combine et le soldat qui exécute. Pas de complice. Les Frochards n'en ont jamais eu. » Puis, devenu tout à coup rêveur. « J'aurais bien voulu le voir, » dit-il, ce fameux mandrin. « Eh bien, » fit la Frochard, « qui t'empêche d'assister à l'exécution lorsqu'elle aura lieu ?»« L'exécution !» s'exclama le bandit que ce mot avait fait bondir. « L'exécution ! Tu vas plus vite en besogne que les juges et le bourreau !»« Mais, » balbutia la femme, « puisqu'il est à la chaîne dans un cachot du Grand Châtelet, tu sais bien que son affaire ne sera pas longue à être bâclée. » »« Elle ne l'est pas encore. Des hommes comme nous, quand c'est pris, ça s'échappe. » Et s'exaltant. « Si c'était moi, je jure par la mordieu que je trouverais bien moyen de sortir de leur Grand Châtelet. » »« J'aime à t'entendre parler ainsi, mon homme. Si jamais on te prenait, j'aurais de l'espoir jusqu'au dernier moment. Mais il me tarde que tu nous fasses riches tout d'un coup, afin que tu puisses enfin te retirer des affaires. » Frochard avait décidé qu'il assisterait à l'exécution de Mandrin et des deux complices capturés avec lui. Il n'eut pas longtemps à attendre. Le procès marcha rapidement. La cour rendit un arrêt qui condamnait le bandit à être rompu vif après avoir subi la question ordinaire et extraordinaire. Aussitôt que le bruit se fut répandu, que l'exécution allait avoir lieu dans l'après-midi, Frochard sortit de chez lui et se dirigea vers le lieu du supplice. Il s'était, pour la circonstance, habillé comme l'étaient alors les bourgeois aisés. Il allait de groupe en groupe, écoutant les conversations, très curieux de se rendre compte des impressions diverses de cette foule impatiente. Pendant ce temps, le charpentier des hautes œuvres dressait la roue et deux potences. « La fête sera complète, » dit un des voisins de Frochard. « On va exécuter le chef de la bande et ses complices. » Toutes les rues adjacentes étaient encombrées par la foule. Les curieux se pressaient aux fenêtres et jusque sur les toits. Ceux qui avaient fait diligence pour arriver jusqu'à pied de l'échafaud étaient à présent refoulés et maintenus à distance par les soldats et les agents de la prévôté. On avait fait au grand scélérat qui payait enfin sa dette à la société les honneurs d'un déploiement considérable de troupes. Et Frochard, enthousiasmé, se disait en lui-même « C'est beau, nom d'un tonnerre, d'occuper la maréchaussée, les agents et toute une population. On peut mourir content quand on a un pareil convoi. » Le bandit éprouvait, en parlant ainsi, ce vertige qui s'empare des grands criminels et leur fait considérer l'échafaud comme un glorieux piédestal. Tout à coup, un grand mouvement d'oscillation eut lieu sur la place. Les cavaliers chargeaient la foule pour frayer un passage à la charrette qui portait le condamné et le bourreau. « Le voici ! Le voici » criait-on de toutes parts. Et l'on se pressait entre les chevaux pour apercevoir le patient. C'était bien en effet le patient, car les tortures avaient commencé pour lui. Il venait de subir la question. Puis des voix disaient avec une expression empreinte d'une certaine terreur. « Samson ! Voilà Samson !» Frochard se trouva bientôt, sans qu'il pût s'y opposer, porté si loin du côté du quai de la tannerie que c'est à peine s'il pouvait se rendre compte de ce qui se passait sur la fatale plateforme. À côté de lui, deux spectateurs, refoulés également, causaient, échangeant leurs impressions à voix haute. « Moi, disait l'un, je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas être assez près pour voir souffrir ce gredin-là et entendre ses lamentations, car ils sont tous lâches au moment de mourir, ces misérables qui n'ont de courage que pour assassiner de pauvres diables sans défense. » Frochard avait tressailli en entendant ces paroles indignées. « Oh, mon cher La Violette, » répondit son autre voisin, « tu parles comme pourrait le faire ton maître, le vieux millionnaire. » Au mot de millionnaire, le bandit avait dressé l'oreille. Le descendant des Frochards sentait bouillonner tout ce qu'il avait dans les veines du sang de ses ancêtres. La Violette et son ami, qui ne s'étaient pas rencontrés, paraît-il, depuis quelque temps, causaient à bâton rompu. « Comment diable as-tu fait pour sortir aujourd'hui ?» s'informa Nicolas. Et il ajouta en riant. « Ton maître t'a donc lâché la chaîne ?»« Je n'ai plus de maître, pour le quart d'heure, » répliqua la Violette. « Et depuis quand n'es-tu plus chez ton maître ?»« Depuis ce matin. Sans quoi est-ce que j'aurais pu venir voir cette exécution qui a mis tout Paris sur pied ?» Et pour quel motif as-tu quitté ta place? Tu appelles ça une place? Dis plutôt un enfer. J'en avais assez de la surveillance soupçonneuse et humiliante de ce vieil avare, dont les yeux perpétuellement attachés sur tous ceux qui l'entourent semblent dire « Ne m'avez-vous rien volé ?» Et qu'y a-t-il maintenant auprès de lui pour le servir? Une petite nièce à lui, appelée Marthe, une jeune fille de 14 ans, douce comme un agneau, et qui travaille autant que le ferait un homme. Mais elle ne suffira pas à elle seule au service de toute une maison. Monsieur Desfrolans a pris pour me remplacer une de ses cousines. Tu sais, la parente pauvre dont au besoin on fait sa domestique. De sorte que voilà ce bonhomme seul, entre deux femmes, dont une toute jeune fille. Frochard tendait l'oreille, ce qu'il entendait paraissait l'intéresser vivement. Oui, répondit la Violette, et la petite Marthe est d'un dévouement sans bornes. C'est un ange de courage et de patience, et il en faut de la patience avec ce diable d'homme-là. Mais la pauvrette supporte tous les caprices, tous les emportements, avec une douceur, une résignation sans pareille. Et son unique pensée est d'adoucir les souffrances du vieux podagre. Ainsi, ce matin, avant mon départ, elle m'a supplié d'aller chercher un autre médecin, parce que le nôtre, c'est-à-dire celui qui soigne depuis longtemps Monsieur Desfrolans, a été obligé de s'absenter. « Il ne peut donc pas se passer un seul jour de son docteur ?» demanda Jean-Nicolas. « C'est-à-dire que Mademoiselle Marthe a voulu profiter de la circonstance pour faire venir un célèbre médecin, monsieur le docteur Durocher. »« Durocher ?» s'exclama Jean-Nicolas. « Je ne connais que ça. Il demeure rue Saint-Louis-en-Lille, numéro 14. »« Précisément. » Frochard fit un imperceptible mouvement et ses yeux brillèrent tout d'un coup d'une lueur étrange. Et mentalement, il répéta « Durocher, rue Saint-Louis-en-Lille, numéro 14. »« Précisément, Et comme il ne peut venir qu'après-demain soir, il faut même que j'aille prévenir Mademoiselle Marthe, qui espérait avoir sa visite pour demain. » Chacune des répliques semblait prendre maintenant une grande importance pour Frochard, à en juger par l'attention soutenue qu'il prêtait à la conversation. À ce moment, il se produisit un mouvement de houle très prononcé. Des clameurs partaient de la place de Grève. « Ça doit être fini, » dit la Violette. « Allons-nous-en. Soit, ce n'est pas chose facile de sortir de cette foule. Parle pour toi, Gringalet. Tu vas voir comme je sais me faire passage, moi. » Et jouant des coudes et des épaules, l'ancien domestique de M. Desfrolans parvint à avancer, peu soucieux des injures dont l'accablaient ceux qu'il bousculait rudement. Frochard essaya de le suivre. Il ne voulait à aucun prix perdre sa trace. C'était déjà beaucoup d'avoir l'adresse du médecin, mais il importait surtout de connaître la demeure du millionnaire. Pour cela, il fallait suivre la Violette, qui devait aller rendre la réponse du docteur à Mademoiselle Marthe. Décidé à ne pas se séparer de lui, le robuste bandit se mit à pousser vigoureusement afin de profiter du sillon que la Violette se traçait dans cette mer humaine. Il était jusque-là parvenu à se maintenir tout près de lui. Mais au débouché de la rue, la bagarre devint sérieuse. Le guet à cheval repoussait la foule de plus en plus envahissante. On s'écrasait sous les pieds des chevaux. Tout à coup, Frochard ne vit plus la Violette. « Nom d'un tonnerre ! » s'écria-t-il. « Est-ce que je l'aurais perdue ?» Et il se mit à fouiller du regard les groupes que la cavalerie dispersait. Il aperçut la Violette qui, un instant renversée, s'était vivement relevée et remise en marche. Après avoir parcouru une partie de la rue des Lavandières, les deux hommes, l'un sur la piste de l'autre, traversèrent le marché des Innocents. Puis, au bout de quelques minutes, ils se trouvèrent à l'entrée de la rue du Bout du Monde. Et comme dans cette rue la Violette rencontrait à chaque pas des personnes qu'il saluait ou avec lesquelles il échangeait quelques mots, « C'est ici que doit demeurer mon homme, » pensa le bandit en s'arrêtant à la porte d'un cabaret d'où il pouvait apercevoir les deux extrémités de la rue. Il ne s'était pas trompé. La Violette, après avoir encore parcouru une cinquantaine de pas en remontant la rue, s'était arrêtée devant une maison aux fenêtres fermées et dont la façade, noircie par le temps et effroyablement lézardée, témoignait bien de la ladrerie de son propriétaire. « C'est dans cette maison, » pensa le misérable, « que se trouvent mes millions. » Et un sourire arqua ses lèvres. La Violette avait frappé deux petits coups comme un signal, et la porte s'était entrebâillée, laissant passer la tête blonde d'une jeune fille. « Ah !» pensa Frochard, « voilà certainement la petite nièce qui sert de garde-malade. » Le bandit vit qu'elle remerciait avec effusion le domestique. Puis, la porte s'étant refermée, la Violette se remettait en marche. Mais cette fois, Frochard n'avait plus besoin de le filer. Il le laissa donc passer devant lui avec autant d'indifférence maintenant que naguère encore il avait mis d'empressement à le suivre. Il en savait assez, et de même qu'il avait fait précédemment pour graver l'adresse du médecin dans sa mémoire, il répéta à voix basse. Rue du Bout du Monde, Monsieur Desfrolans. Il marchait l'air pensif, les yeux fixés sur le pavé, comme un homme profondément absorbé. La brume commençait à se faire épaisse dans le dédale des petites rues qui avoisinaient le marché. Frochard dut s'orienter pour regagner son domicile par le chemin le plus court. Il avait hâte de faire part à sa femme de la bonne nouvelle. Jamais depuis qu'il travaillait, affaire plus belle ne s'était présentée, pensait-il, dans des conditions aussi favorables. Mais ce coup de fortune exigeait, pour son exécution, un véritable coup de maître. Il fallait faire en sorte de laisser le moins de prise possible au hasard qui pourrait faire avorter l'opération. Aussi, en récapitulant les atouts qu'il avait déjà dans son jeu, Frochard se réjouissait-il qu'il eût pris fantaisie à la Violette de quitter si à propos le service de M. Desfrolans. À tout prendre, pouvait bien se hasarder à pénétrer, soit par escalade, soit par effraction, dans cette maison dont la garde était confiée à deux femmes. Il aurait facilement raison, sans doute, de la résistance que l'on tenterait de lui opposer, mais il ne pouvait se débarrasser de trois personnes à la fois. Il suffisait qu'une seule des victimes parvint à lui échapper pour qu'elle donnât l'alarme. « Il faut éviter les piaillements, » concluait le bandit. « Et pour cela, j'ai mon idée qu'il ne s'agit plus que de mûrir un peu. » « Puisqu'on attend un médecin, » se disait-il, « il y a un moyen tout indiqué pour s'introduire dans la maison du millionnaire, prendre la place de ce docteur. » La chose, à première vue, présentait d'autant moins de difficultés que Frochard savait, l'ayant appris par la conversation de la Violette et de son amie, que personne chez M. Desfrolans ne connaissait, même de vue, la célébrité médicale à laquelle Mademoiselle Marthe s'était adressée. « Voilà qui tombe à merveille, » continuait Frochard. « Je remplacerai facilement le célèbre du Rocher. » Il ne s'agissait plus que d'empêcher celui-ci de faire sa visite chez son nouveau client. Quel moyen employer pour arriver à ce but? Le prévenir que M. Desfrolans n'avait plus besoin de ses services? On ne procède pas de la sorte avec les praticiens en renom. Frochard eut alors la pensée de retarder d'un jour la visite du docteur. Il suffisait pour cela d'un simple petit faux en écriture privée. Pure bagatelle pour un homme qui avait l'habitude de jouer du couteau à la moindre résistance qu'il rencontrait. J'écrirai la lettre et je la porterai moi-même à destination. Le reste ira comme sur des roulettes, se dit-il. Pour l'entière exécution de son plan, Frochard devait se procurer deux costumes, deux travestissements, une livrée de valet de pied et un de ces habits en velours noir que portaient alors les médecins. Rien de plus facile que d'acheter ces vêtements au rabais chez le premier fripier de la rotonde du Temple. Il fallait, à la vérité, risquer une certaine mise de fonds que ne lui imposait pas d'habitude son genre d'opération. Mais n'allait-il pas devenir puissamment riche? C'était de l'argent bien placé. Arrivé chez lui, « Femme !» s'écria-t-il. « Je crois que cette fois, nous tenons la fortune. »« La fortune ?» fit la Frochard, dont les regards s'enflammèrent aussitôt. « Qu'est-ce que tu me comptes là ?»« Qu'il te suffise de savoir que nous allons être riches, très riches, et que tu pourras vivre comme les grandes dames dont tu relugues si envieusement les toilettes, au jardin du roi et aux galeries du palais royal. »« C'est-il bien vrai, mon homme ?»« Vrai comme je te vois là, devant moi, avec tes yeux qui brillent comme des escarboucles. » Ce n'était pas seulement l'appât de l'or qui venait illuminer le visage de la Frochard. Cette femme perverse applaudissait à tous les exploits de son mari. C'était dans sa pensée de légitime revanche qu'il prenait contre la société. « Riche !» répéta-t-elle en saisissant les mains de son homme. « Nous serons riches. Tu me l'assures, Frochard ? Alors, explique-moi. » « Non, qu'il te suffise de savoir que je t'apporterai peut-être des millions. »«
Des millions ?
Oui, c'est une mine d'or que j'ai découverte. » Le bandit se complaisait à exciter la curiosité de sa femme.
« Une mine d'or ? »
s'exclamait celle-ci en jetant éperdument ses deux bras autour du cou du bandit. « Pourquoi n'as-tu pas tout de suite mis la main dessus ?»«
Parce que j'ai mon idée, et que je la suivrai de point en point sans en rien changer. »«
C'est donc bien difficile ? Faudra-t-il que tu t'exposes ?» Et baissant la voix, « Y aura-t-il du rouge ?
Est-ce qu'on sait jamais s'il ne faudra pas jouer un peu du couteau ?» répondit froidement le bandit.
Puis s'animant, « Ce que je puis te dire, femme, » continua-t-il, « c'est que tous ces malins qu'on appelle dans les gazettes les célébrités du crime ne me vont pas à la cheville. Quand il s'agit de s'introduire dans l'endroit où il y a quelques bons coups à faire, comment procèdent-ils d'ordinaire ? Ils essaient d'entrer en forçant une porte ou une fenêtre.
« Eh ben, et toi ?»«
La belle affaire, » dit en ricanant Frochard, « que d'escalader ou de fracturer. Il ne faut pour cela qu'un peu de vigueur au poignet et des outils. »«
Tu vas entrer dans le nid en question par la cheminée ?» demanda la Frochard.
« Encore l'enfance de l'art, femme. Comme cet autre qu'on appelait le Capucin, n'est-ce pas, qui s'est vanté devant les juges d'être resté caché toute une journée pour attendre la nuit dans une cheminée où l'on avait allumé un bon feu. » Et avec une expression de dédain, il ajouta, « Se laisser fumer comme un jambon. Pas malin le procédé. Risquer d'être forcé de s'échapper piteusement par les toits comme un chat. Et toi, comment donc comptes-tu t'y prendre cette fois ?»«
Moi, femme Frochard, je veux qu'on vienne m'ouvrir toute grande la maison où j'irai travailler. »
« Qui ça ? » interrompit la femme du bandit émerveillée. « Les domestiques peut-être ?
Mais oui. Tu les connais, et ils seront de la fête. »
Frochard eut un sourire dédaigneux.
« Des complices alors ? » fit-il en haussant les épaules. « Tu sais que je n'en veux pas. »
Puis, achevant son récit,
« Oui, Mme Frochard, on viendra me recevoir à la porte, et l'on me saluera jusqu'à terre, en me remerciant de la visite que je daignerai faire. »
« En vérité ? »
J'ajoute même que je serai attendue avec la plus grande impatience, par le millionnaire lui-même, qui m'accueillera comme un sauveur.
« Un sauveur ? Toi ?» Ayant ainsi mené graduellement sa femme jusqu'au dernier degré de la stupéfaction, le bandit entama un sujet qui devait également étonner la Frochard.
« Femme, lui dit-il, vous m'aiderez dans cette affaire, toi et les petits. »«
T'aider, nous ?»«
Je n'aime pas que les femmes mettent la main à la pâte, mais ce que je veux, c'est que pendant que je travaillerai, vous fassiez le guet tous les trois. »«
Pour t'avertir, comment nous y prendrons-nous »«
Si la mouche se présente, toi ou l'un des enfants me lancerait un coup de sifflet. » C'est pas plus difficile que ça.
Je préviendrai Jacques à l'avance de ce qu'il aura à faire.
Mais le petit... Jacques se tiendra à un bout de la rue, Pierre à l'autre extrémité, et toi au milieu. Ce sera bien le diable si quelqu'un vient à passer, sans que vous le voyiez ou l'entendiez venir.
Et alors...
Suffit, dit froidement la Frochard. Nous ouvrirons les yeux et les oreilles. Puis, après un silence...
Et à quand l'affaire?
Pas plus tard que demain. Et où faudra-t-il que nous fassions le guet? Tu connais bien l'église dont on voit les clochetons du marché des innocents?
Saint-Eustache?
Ce saint-là ou un autre, peu m'importe. Va pour Saint-Eustache, puisqu'il paraît que tu connais ce particulier-là.
Et après,
en allant du côté de cette église, pour venir ici, tu rencontreras une rue qui s'appelle la rue du bout du monde.
Je connais ça. J'y passe quelquefois en revenant du marché.
Dans cette rue, il y a le numéro 14.
Le numéro 14. Répéta la femme.
Il s'agira pour toi et les enfants de vous poster dans cette rue, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et de ne pas manquer de siffler si vous voyez paraître quelque chose comme un agent de la prévôté ou un soldat du guet.
Et si tu n'allais pas réussir?
Dit la Frochard avec anxiété.
Il faut que je réussisse, mille tonnerres!
S'écria le bandit en élevant la voix.
Il le faut, ou le diable y perdra ses cornes.
Viens ici, mon Jacques! Cria-t-il à l'enfant qu'il prit dans ses bras. Puis, ayant embrassé son préféré avec plus d'effusion encore que d'habitude, il se rapprocha de sa femme et lui dit
« J'ai encore une recommandation à te faire. Il s'agit que l'on ne soupçonne rien dans cette boîte à cancan. Ta voisine est une pie borgne qui va clabauder dans tout le quartier. Sans compter que le boutiquier est toujours sur le pas de la porte lorsque l'un de nous sort ou rentre. Faut donc clouer le bec à ces deux oiseaux-là. » pour qu'il ne s'occupe pas de mes affaires.
Parle, mon homme. Tu diras à ta voisine, à cette autre d'en bas, que j'ai trouvé une bonne place, et tu ajouteras que c'est ce que je cherchais depuis longtemps.
Une place chez qui? Une place de quoi?
Frochard regarda pendant quelques secondes sa femme pour jouir de la surprise.
Une place de valet de pied, dit-il lentement.
De valet de pied?
Oui, mon Frochard, chez un grand seigneur.
Et appuyant sur ces mots. Tu auras bien soin de dire que dès demain, tu entends bien, dès demain, je dois aller me présenter pour voir si je fais l'affaire du maître.
C'est bon, répondit la Frochard. Plaqué bien convenu. Tout le monde connaîtra la nouvelle avant qu'il ne soit seulement une demi-heure.
Tandis que sa femme se chargeait de faire courir, dans la maison qu'elle habitait, le bruit qu'elle allait enfin pouvoir vivre moins économiquement, parce que son mari, qui ne faisait plus d'affaires dans ses voyages, avait enfin trouvé une place de valet de pied chez un personnage de la cour, Frochard se mettait en quête d'une livrée, d'un habit de velours et d'une douillette. Il se rendit pour cela dans les environs du temple, où il trouva les objets désignés plus haut, non sans avoir marchandé consciencieusement et sans avoir entendu débiter tout le vocabulaire des revendeuses. Lorsqu'il rentra chez lui, portant le paquet de vêtements, le boutiquier l'arrêta à la porte en lui disant
Vous allez donc nous quitter, voisin? Ma foi, voisin, c'est pas trop tôt. Mon sac d'écu a joliment le ventre vide depuis quelque temps.
Et vous allez le remplir à cette heure, il paraît.
En attendant, je viens encore de débourser.
Au fait, voisin, qu'est-ce que vous portez dans ce paquet? Un habit?
Habit de domestique, voisin, soupira Frochard. Que voulez-vous, quand on n'a pas le choix?
Bah, si vous êtes, comme dit votre femme, chez un duc.
Et un fameux voisin, la duchesse à son tabouret.
À la cour?
Comme j'ai honneur de vous le dire, voisin. Ça possède des millions, pendant que le pauvre peuple crève de faim,
dit hypocritement le bandit. Cette soirée qui précédait l'attentat fut pour Frochard comme une veillée des armes. Il passa de longues heures, pendant que sa femme et ses enfants dormaient, à réfléchir, tantôt accoudé sur la table et la tête plongée dans ses mains, tantôt marchant de long en large dans la chambre. Puis tout à coup, allant prendre dans un tiroir tout ce qu'il fallait pour écrire, il se mit à libeller la lettre qu'il devait le lendemain
portée chez le docteur qu'attendait si impatiemment la nièce de M. Desfrolans. Ceci fait, il se relut à haute voix, pesant chaque mot, répétant chaque phrase, pour s'assurer que rien ne pouvait faire deviner le faux. Et satisfait de son travail, il plia, cacheta et écrivit la suscription suivante. À Monsieur, Monsieur Durocher, médecin chirurgien, rue Saint-Louis-en-Lille, en ville. Dans cette lettre, Monsieur Desfrolans exprimait le désir de voir le médecin retarder sa visite de 24 heures, désireux de faire observer par le célèbre praticien certains symptômes qui, soi-disant, ne se reproduisaient que tous les 2 jours. Tout était prêt, et désormais le bandit n'avait plus qu'à attendre que le moment fût venu de se mettre à l'œuvre. Le lendemain, avant de partir, Frochard, ayant jugé utile et prudent de faire une répétition du rôle qu'il avait à remplir, se plaça devant le miroir, sa lettre à la main, s'essayant ainsi à présenter un pli, comme doivent le faire les domestiques bien stylés. Puis, persuadé qu'il avait atteint la perfection, il revêtit la livrée, au grand ébahissement de Jacques, qui voulait savoir le motif de ce travestissement, et de Pierre, qui n'osait interroger. Et il partit, non sans que la Frochard eût fait en sorte que la voisine vit le bandit dans sa tenue de valet de grande maison. « Bonne chance !» lui cria le boutiquier en le voyant passer. Il avait pris par le plus court pour arriver rue Saint-Louis-en-Lille, et sa main n'avait pas eu la plus légère agitation en soulevant le marteau pour frapper à la porte de la maison qu'habitait le médecin. Au valet qui s'était présenté, il avait dit avoir une lettre à remettre à M. Durocher. « Monsieur le docteur est-il visible ? » avait-il demandé en observant le maintien le plus correct. Et il avait ajouté tout en suivant le domestique. « Je viens de la part de M. Desfrolans. » Au nom du millionnaire, le grand praticien avait saisi, avec un certain empressement, la lettre que son valet lui présentait sur un plateau d'argent. Et après avoir pris connaissance de la missive, il avait répondu « C'est bien, je me rendrai au désir de M. Desfrolans. » Pas une fibre n'avait bougé sur la figure de Frochard. Il s'était incliné très respectueusement devant le maître, puis, en passant devant lui, il salua, d'un petit signe de tête, le valet qui le reconduisait jusqu'au bas de l'escalier. Et après avoir repris la valise qu'il avait laissée dans le corridor, il referma la porte cochère sans précipitation et marchant à pas lents. Mais lorsqu'après avoir franchi le pont, il se retrouva de l'autre côté de la Seine, il ne conserva plus son attitude calme de flâneur. « Edin !» se dit-il gaiement. Et tout heureux de la façon dont il s'était tiré de cette première partie de son programme, il reprit le chemin de l'auberge. Frochard avait ainsi trouvé le moyen de retarder de 24 heures la visite du médecin. Il s'agissait maintenant pour lui de se substituer à la célébrité médicale qui avait nom Durocher et de se présenter en son lieu et place au chevet du malade, le millionnaire Desfrolans.